Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Il était méchant, mais tout le monde l'adorait. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Mad Dog Vachon.
Voulez-vous me dire d'où ça vient, cette voix-là que vous avez?
On vous dit une chose, Lise, parce qu'on vous appelle Lise. Vous voulez qu'on vous appelle Lise? Moi, vous voulez qu'on m'appelle Mad Dog, ça vous fait rien. Oui. C'est des coups que j'ai reçus dans la gorge. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je parle de même pour faire le bouffon à la télévision.
Mais
je parle
de même. C'est votre vraie voix.
Lorsque je suis fâché, la voix s'enctue. Je parle plus fort. Et c'est les cordes vocales qui sont bloquées sur un côté. En plus de ça, j'ai le larynx fracturé et ça me fait parler de même. C'est des coups de mes adversaires, alors je ne peux pas leur pardonner.
La voix particulière de Mad Dog Vachon sur le plateau de Lise Payette, c'était le 14 septembre 1973. « J'ai tout fait pour être haï », dira-t-il, « mais je n'ai pas réussi ». Ainsi se résume la longue carrière de Maurice Mad Dog Vachon. 44 ans sur le ring, 13 000 combats et une retraite bien méritée à l'âge vénérable de 57 ans. Mais le combat le plus difficile de Mad Dog fut hors du ring. Un dur à cuire élevé à l'école de la rue, craint de ses adversaires, mais adulé du public.
J'ai avec moi celui que tout le monde attend, c'est-à-dire Maurice Mad Dog Vachon. Maurice, tu es de passage à Montréal. Est-ce que tu vas être dans la bataille royale?
Oui, j'avais participé dans la bataille royale. Je suis donc content de revenir à Montréal. Et comme tu sais, moi, ma vie, c'est presque un combat royal. J'ai passé ma vie à me battre un peu partout dans le monde. Contre 5-6 hommes à la fois. Des fois, je me suis fait attaquer au Japon et aux Indes partout. Puis les batailles royales, c'est comme une bataille de rue. S'il y a quelqu'un qui connaît son affaire dans ça,
et
c'est
alors, j'ai une surprise pour toi et ainsi pour les téléspectateurs, les amateurs de lutte. Oui. C'est quelle heure ton ennemi numéro un, le rêve du Québec, va participer à la bataille royale?
Oh non, pas de panacée, mais dans la bataille royale, oh, mais là, je suis content. Il va avoir de la chair molle qui va le voler partout. Ça va être foiré partout dans le forum. Là, on va l'avoir pour notre argent. Pas de panacée dans le combat royal. Oh là, je suis tenu comme un roi. Oh, mon Dieu, tu seras pour toi.
Oui, bon, de la chair molle qui va revoler partout. Mad Dog Vachon, au micro d'Édouard Carpentier, c'était au début des années 80. Alors pour nous en parler, mon invité, Pat Laprade, il est historien de la lutte au Québec, animateur de lutte à TVA Sport, et puis il a coécrit le livre Mad Dog Vachon avec Bertrand Hébert, publié en 2015. Bonjour, merci d'être là.
Ben, merci à vous de l'invitation.
On parlera de l'homme derrière le lutteur, parce que vous l'avez bien rencontré, mais parlons d'abord de son enfance. Hein. Une vie tumultueuse dans une famille nombreuse, dans un quartier ouvrier. C'était pas un petit gars facile, le jeune Maurice.
Bien, c'était pas un petit gars facile. Et puis lui, avec ses frères, dans le quartier Villemar, où il a grandi, bien, à quel point c'était pas une enfance facile. C'est son sport préféré lorsqu'il était jeune. C'était de battre ou, de, se battre avec
contre les Anglais.
Ben oui. Dans son quartier, il y avait un père qui était policier, mais en même temps, un homme de son époque. Quand Maurice dit « Ma vie a été un combat », bien, c'est vraiment, ça remonte à sa tendre enfance. Puis c'est un peu ça également qui va mener à sa carrière de lutteur. Parce qu'à un moment donné, son père veut canaliser ses énergies au bon endroit. Il voit que Maurice pourrait facilement prendre un chemin qui pourrait l'amener peut-être même vers la criminalité. Mm-hmm. Et puis, décide de l'inscrire au YMCA. Et au départ, à la boxe, et on le convainc que la boxe, c'est peut-être pas le meilleur des sports. Il y a des coups à la tête et tout ça. Et finalement, on lui conseille de faire de la lutte amateur. Oui. Et c'est là qu'avec la lutte amateur, Maurice entre dans ce monde de lutte qui va l'amener à voyager un peu partout dans le monde.
Oui, tout à fait, avec les Olympiques. Mais bon, on parlait de son enfance. Oui, une famille nombreuse, comme c'est le cas à l'époque, dans un milieu ouvrier. Une mère aimante, un père sévère, hein, policier. On va l'écouter justement, Mad Dog Vachon, nous parler de son enfance aux côtés de sa mère. Et c'était au micro à ce moment-là d'un jeune reporter, Bernard de Rome, décembre 1967.
Mon père, ma mère, c'était un homme qui était mauvais, hein? Mais mauvais, pas voir ça. Nous autres, on allait jouer dans le champ des fous, encore, c'était toujours là. Puis, c'était notre domaine, notre royaume, ça. Et puis, il disait, il faut que ça y revienne à 7 heures. Il faisait peur. Il était bien mauvais, puis une voix forte. « Maurice! Marcel! » Et on sautait à ce dos, puis on allait à la maison. Une fois, il est arrivé de l'école, puis j'avais ma chemise déchirée, puis tout sale, mon père, il dit, « Ah, tu dois être blessé encore, hein? » Il disait, tu gagnais? Je dis oui. C'était bien fait.
Ah, il vous encourageait, votre père?
Ben, il nous encourageait de pas avoir peur, disons. Il faut pas oublier une chose non plus, que continuellement dans la vie, un homme essaie toujours d'essayer un autre homme. Vous savez, ma question. Vous allez dans une taverne, vous asseyez. Tout de suite, il y a quelqu'un qui pense vous passer par un bonhomme, il va vous tenir un coup de poignard. Même aujourd'hui, dans la vie moderne, où ce que, tout ce qui compte, c'est l'éducation, il y a encore un autre homme qui veut essayer. Et puis, quand on sait lutter, on se rend compte soi-même qu'il n'y a personne au monde qui peut nous battre.
Quand on sait lutter, parce que oui, vous l'avez dit, son père voulait qu'il fasse de la boxe, puis là, on lui dit, ben non, c'est peut-être pas une bonne idée, la boxe, la lutte, puis la lutte, en plus, ça peut conduire aux Olympiques. Donc, très jeune, il s'initie à la lutte. Il y a quoi, il y a 13-14 ans, à peu près?
Ah oui, il est à l'adolescence à ce moment-là, ouais. Et puis commence et devient bon rapidement. Devient un des meilleurs de sa catégorie d'âge et tout ça. Et si bien qu'à l'âge de 18 ans, ben, est sélectionné pour aller aux Jeux olympiques de 1948 à Londres. Bon, ne remportera pas de médaille, mais fait quand même très bien. Étant donné l'âge qu'il a, l'affronte des hommes là, de 30-31 ans, et quand même fait très, très bien. Par contre, 1950, donc deux ans plus tard, ce sont les Jeux de l'Empire, comme on les appelait à l'époque, bon, ce qui est devenu les Jeux du Commonwealth.
Oui, oui, oui.
Aujourd'hui, c'est à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et Maurice remportera à ce moment-là une médaille d'or.
Ah oui.
Donc ça va avoir été un de ses grands moments, peut-être son premier moment, grand moment de sa carrière. Et lui, Maurice, à ce moment-là, pense que sa vie est réglée. Là. Le monde de la lutte vient de lui ouvrir les portes. Il pense faire une tonne d'argent, pense devenir une célébrité.
Ah oui.
Il revient à Montréal et à part son frère qui vient l'accueillir au port de Montréal, il n'y a personne.
Ah
pas
oui.
Un journaliste, pas un amateur, personne. Et là, il se rend compte que ben, la lutte amateur, c'est peut-être pas ce qui va lui permettre de vivre.
Alors, il fait quoi à ce moment-là? Comment il gagne sa vie,
ben,
le jeune Maurice?
Ça me faisait rire parce que Maurice disait, tu sais, tout le monde a toujours voulu m'essayer. Ben,
oui.
C'était ça quand il était petit. C'était ça dans chaque métier qu'il a eu. Ce qu'il est devenu par la suite, c'est portier. Dans les bars, dans les clubs de l'époque. Et il gagne chacune de ses bagarres. Il sort les clients derrière, par-dessus tête, en bas des escaliers, puis il gagne toutes ses batailles au point que ça devient un problème.
Ah oui.
Il est reconnu comme le meilleur portier de Montréal.
Mm-hmm.
Par contre, à un moment donné, il reçoit un conseil d'Armand Courville. Armand Courville, c'est un ancien lutteur lui-même qui était le bras droit de Vic Cotroni, le présumé chef de la mafia de l'époque. Et ça arrivait que Maurice travaillait pour certains bars qui appartenaient à Vic Cotroni. Et Armand Courville l'avait pris à part et lui avait dit « Écoute, Maurice, il faut que tu arrêtes, il faut que tu penses à changer de métier parce que tu bats tellement tout le monde qu'à un moment donné, quelqu'un va arriver avec un fusil puis il va juste te tirer.
Ah oui.
Alors, ta vie est en danger. » Lâche le monde des portiers, lâche le monde des bars. Pourquoi tu t'en vas pas dans la lutte? Tu as fait de la lutte amateur, la lutte professionnelle, ça serait bon pour toi. Ça sera peut-être pas payant au début, mais tu vas en faire une carrière, j'en suis convaincu. Et il va suivre ce conseil-là.
Mmh. Ben, ça, je conseille, oui, parce que non seulement il a épargné sa vie, puis il est devenu une vedette par la suite. Oui, avoir une expérience en lutte amateur, c'est une chose, mais la lutte professionnelle, c'est un autre monde. Comment il découvre, comment il s'initie à ce monde-là?
Ben, à ce moment-là, ça te prenait... Si tu avais une base de lutte amateur,
oui.
Tu finissais par apprendre les rudiments du métier sur le tas, comme on dit. Donc, il commence à être lutteur pour des petits promoteurs à Montréal, peut-être pas tout de suite au Forum, mais lutte quand même rapidement dans les préliminaires du Forum. Mais à Montréal, ce qui était difficile à l'époque, c'est de faire sa place pour un Québécois. C'est Yvon Robert qui était la grande vedette et il y avait mainmise sur qui était pour être les prochains Québécois à devenir des vedettes. Il y avait Larry Moquin qui était son fidèle compagnon, mais il y avait plus les yeux sur un Johnny Rougeau, sur un Jean Rougeau qu'un Maurice Vachon. Il y a eu beaucoup de Québécois qui ont dû s'exiler à l'étranger pour en faire une carrière parce que lutter dans les petits endroits, dans ce qu'on appelait à l'époque la petite lutte, parce que c'était des poids qui n'étaient pas nécessairement les poids lourds qu'on voyait au Forum, ou peut-être pas le même talent qu'on voyait au Forum, mais à ce moment-là... On doit s'exiler si on veut en vivre parce que c'était pas assez payant de lutter en périphérie du Forum ou même en périphérie de Montréal.
Oui. C'est paradoxal. Donc, des Canadiens français, comme on disait à l'époque, hein, qui vont aux États-Unis. Alors, c'est là qu'il se fait un nom. C'est là qu'il devient le fameux Mad Dog. Comment il devient Mad Dog?
Ça arrive peut-être une dizaine d'années après ou 7-8 ans après avoir fait ses débuts professionnels. Il est à Portland, en Oregon, la toute première fois qu'il y lutte. Et il arrive et vire tout à l'envers. Il saute partout, frappe un policier, frappe l'arbitre. Bon, il y a une partie de ça qui était prévue, une partie qui est peut-être improvisée également, mais la foule embarque vraiment et voit devant eux un chien enragé. Et à son retour dans les coulisses, le promoteur Don Owen lui dit, en anglais bien évidemment, mais en français, ça donne « T'avais l'air d'un chien enragé là-bas. »
Ah ouais.
Hey, chien enragé, Mad Dog. Et là, ben, de fil en aiguille, c'est un surnom que les médias, que les commentateurs commencent à reprendre. Et ben, il deviendra à ce moment-là Maurice Mad Dog Vachon, ce qui complète un peu son changement de look. Maurice, lorsqu'il a débuté, si vous pouviez voir des photos de Maurice quand il a débuté, c'était vraiment quasiment un premier de classe. Là,
oui.
Il y avait les cheveux, il y avait une bonne petite barbe, ou même pas, il était imberbe à ce moment-là.
Il était tout bien mis,
un maillot. Et là, ben, avec les années, c'est bâti un look, un personnage édenté. Il lui manquait quelques dents, il y avait une barbe, il n'y avait pas de cheveux sur le dessus de la tête. Il a parlé de sa voix, puis il avait tout à fait raison. C'est vraiment des coups à la gorge qui lui ont donné cette voix-là. Donc là, le surnom venait compléter le personnage.
Ouais. Personnage qui s'est créé parce que, en plus, bon, physiquement, il n'est pas particulièrement imposant, Mad Dog Vachon. Hein? C'est ça, c'est le paradoxe aussi.
5 pieds 7, peut-être.
Ah oui, c'est
tout? 5 pieds 7, 5 pieds 7 et demi. Mais il luttait comme quelqu'un qui faisait 6 pieds, 6 pieds 2.
Mm-hmm.
Donc, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été vraiment mis de l'avant, sa grandeur. On parlait de lui comme quelqu'un qui était agressif dans l'arène, qui était capable de donner. Puis dans la vraie vie, ben, c'était ça également. Maurice, c'était quelqu'un qui savait se battre puis qui était capable de se défendre. Donc, sa grandeur n'a jamais été questionnée.
Oui. Alors, comment, bon, là, il se fait un nom aux États-Unis parce qu'il est parti là-bas, il s'est exilé pour s'initier à la lutte. Comment il devient une vedette ici au Québec? Parce que dans les années 70, il devient une grosse vedette. Là.
Oui, absolument, absolument. Ben, en fait, Maurice est devenu vraiment une grosse vedette aux États-Unis, dans le Midwest américain, particulièrement dans l'État du Minnesota, où il y a une promotion qui s'appelle la AWA du promoteur Vern Gagné. Et il devient champion à plusieurs reprises. Et c'est vraiment là son statut de vedette s'établit de plus en plus. Et à la fin des années 60, en équipe avec son frère Paul de Butcher Vachon. Donc, ça prenait un surnom. Pour Maurice, c'est important qu'il y ait un surnom. Alors, avec son frère Paul, ils deviennent champions par équipe à la AWA. Donc ça, c'est à la fin des années 60, début 70. Et c'est à ce moment-là que Yvon Robert lui paie une visite et forme ce qui s'appellera Lutte Grand Prix. Et là, c'est vraiment avec Lutte Grand Prix que Maurice devient cette vedette locale-là. Lutte Grand Prix, d'ailleurs, qui pendant un an et demi, deux ans, est devenue la promotion numéro un au Québec. Au niveau de la lutte, c'est elle qui attire les meilleures assistances, autant au Colisée de Québec qu'au Forum de Montréal. Et puis, le sommet de tout ça arrive en juillet 73, alors que Maurice Vachon affronte Vladek Killer Kowalski en finale du Parc Jarry devant plus de 29 000 personnes, qui à ce jour est la plus grande assistance de lutte de l'histoire du Québec. Et j'ai juste terminé sur une belle anecdote. Paul Vachon va le voir, c'est le promoteur, Paul. Il lui dit, écoute, si tu avais à nommer le plus grand méchant de l'histoire du Québec, ce serait qui? Ben, il dit, c'est Killer Kowalski. Il dit, c'est ça. Tu vas affronter Killer Kowalski. Ben, il dit, voyons, je suis vilain, moi aussi. Deux vilains ne peuvent pas s'affronter. Il dit, non, tu ne comprends pas. Toi, ton nom, c'est Maurice Vachon. Tu es Québécois. Tu viens de Montréal. Lui, c'est Vladek Kowalski. Il n'est pas beau. C'est un Polonais. Toi, tu vas être leur méchant. Tu vas être leur méchant à la foule. Ils vont prendre pour toi. Et à partir de ce moment-là, ça a été très difficile d'avoir un Maurice Vachon vilain.
Oui.
Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était devenu le favori de la foule.
Ben, c'est ça, parce que c'est assez paradoxal. Normalement, le vilain, on ne l'aime pas, le méchant.
Ben non, exactement. Mais quand tu as le choix entre un Vachon et un
Kowalski...
Oui.
Ben, tu prends le vilain Vachon.
Tu vas prendre le vilain Vachon, exactement.
Oui. Il comprend très vite aussi que la lutte, hein, c'est un spectacle. Bon, non seulement c'est vrai que c'est un bon lutteur, il a du talent dans le ring, mais il en a hors du ring, devant la caméra. Hein. Ce qu'on voit, bon, ce qui est devenu monnaie courante, de prendre le micro, puis de s'adresser devant la caméra, d'insulter son adversaire. Lui, il fait ça assez tôt. Là.
Lui, il fait ça très, très tôt dans sa carrière, au début des années 50, avec l'avenue, justement, de la télévision, où habituellement un intervieweur posait une question, gardait le micro et attendait la réponse, micro devant la bouche du lutteur en question. Maurice, lui, non, il prend le micro, il arrache le micro de la main de l'intervieweur et s'adresse directement à la caméra. Alors, les gens qui regardaient ça à la télévision se sentaient encore plus investis parce que c'était comme si Maurice leur parlait directement à eux au lieu de répondre à la question de l'intervieweur. Et ça change vraiment la façon que les gens vont le voir et ce qui lui permet d'être encore plus détesté parce qu'à ce moment-là, il est un vilain. Et il y a des endroits comme au Saguenay, à Chicoutimi, où Maurice va se proclamer le roi de Chicoutimi et fait des entrevues radio également où il continue à promouvoir le tout. Et partout où il va passer, utilise cette même méthode-là que maintenant, tout le monde utilise
oui,
ou presque,
bien sûr, oui.
Qui a évolué avec les années, mais Maurice a vraiment été un des pionniers à ce niveau-là.
Ouais. Je disais en introduction, hein, 44 ans sur le ring, 13 000 combats, c'est vrai ça ou ça fait partie de la légende de Maurice?
44 ans, il a commencé au début des années 50.
On peut donc, dire jeune, oui.
Oui, c'est ça, avec la lutte. Je pense que Maurice comptait ses années de lutte amateur. 13 000 combats, on ne le saura jamais vraiment. Il compte peut-être aussi ses matchs de lutte amateur au YMCA de l'époque.
Ouais,
Maurice
peut-être.
Était bon pour exagérer l'histoire.
Nous,
quand Bertrand Hébert et moi, on a fait le livre sur Maurice, lorsque Maurice racontait plusieurs fois la même histoire, mais à différents moments dans sa vie, on se fiait toujours à la version la plus proche de quand l'événement est arrivé. Donc, la plus vieille version, parce que c'était habituellement la plus proche de la réalité. Avec les années, il finissait par exagérer l'histoire au point que c'en était presque plus crédible.
Oui, il y a
des histoires mythiques autour de Maurice, mais bon, oui, c'est ça. C'est un lutteur de son temps qui n'avait pas peur de l'exagération.
Puis ça fait partie de la légende, ça contribue au mythe. Hein? Mais quand même, à 57 ans, le corps est usé, puis on comprend pourquoi. Il participe à ce moment-là à un dernier combat en octobre 1986. On va l'écouter au micro de Jean Pagé à notre télé, suivi d'un vox pop.
Maurice Vachon, vous êtes sur le point de mettre un terme à une brillante carrière de lutteur. Comment se sent-on, là, juste à quelques heures de tourner la page sur cette carrière?
Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que j'ai commencé au plus bas de l'échelle qu'une personne peut commencer. Et puis, je crois que je suis rendu au sommet. Je ne peux pas aller plus loin que ça.
Mais ça a duré combien de temps, Maurice?
Le combat a duré toute ma vie. Et puis, je vais continuer à me battre. Mais je crois que, sincèrement, que si j'ai accompli quelque chose dans ma carrière, si j'ai pu obtenir le respect, et je crois que je l'ai fait, de tous ceux que j'aime, de tous les Canadiens français, je crois que ma mission est accomplie.
Franchement, il y a bien du monde qui va le manquer. Il a toujours donné des bons spectacles partout où il est allé.
On va garder un bon souvenir, naturellement, de toutes les années qu'on l'a vu lutter. Moi, c'est un ami personnel, alors ça fait de la peine.
Maurice Vachon, c'est un homme à tout faire. Il est plaisant, les gens l'aiment, les enfants l'adorent. Et puis, je le sais qu'il va faire carrière pas mal encore dans d'autres choses.
Disons que le monsieur, partout où ce qui passe, n'importe quoi, le monsieur met de la couleur.
Ah, il met de la couleur, ça c'est sûr, et c'est l'attrait de Mad Dog Vachon. Hein. Il aurait pu jouir d'une retraite bien méritée, or son combat le plus difficile, il va le livrer hors du ring l'année suivante, hein, Maurice Vachon qui frôle la mort dans un accident. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Il se passe que Maurice est devenu une personnalité médiatique au Québec. Il fait de la radio, de la télé avec Michel Jasmin, Jean-Pierre Coallier également. Bon, il fait le tour, mais il habite ici au Québec, mais il a une maison également à Omaha, au Nebraska. Il est marié avec une Américaine et à un moment donné, il visite la famille de son épouse en Iowa. Et bon, Maurice avait une routine plus jeune de courir. Il courait beaucoup. Et là, il était plus capable de courir comme tel à cause de ses genoux, mais il prenait des marches rapides tôt le matin. Et là, il est en bordure de l'autoroute et il y a un chauffeur qui le frappe.
Ah oui.
Et bon, il y a eu des complications à l'hôpital. L'hôpital a même été poursuivi sans succès, mais carrément, on l'ampute d'une jambe. C'est très difficile sur Maurice. Maurice, qui avait une belle carrière médiatique, fait un dernier projet, le Pirate Mad Dog, une émission pour enfants, mais il a de la misère à retenir ses lignes. C'est vraiment plus compliqué. Et ça va vraiment avoir été son dernier projet médiatique ici au Québec. Retourne au Nebraska et pendant un certain temps, il seuille dans l'alcool. L'alcool qui a toujours été très présente dans sa vie, mais atteint le plus bas. Et puis, à un moment donné, il réalise qu'il faut qu'il arrête de boire. Donc, arrête de boire complètement et continue à vivre quand même par la suite très, très bien et même se servira de son handicap à certaines reprises dans le monde de la lutte où la WWE fait des spectacles dans son coin. On invite Maurice et c'est Maurice qui propose d'utiliser sa jambe de bois comme outil pour qu'un autre lutteur puisse attaquer, comme arme pour qu'un autre lutteur en attaque un autre. Donc, le sens du spectacle, il l'aura jamais perdu.
Non, ça, il l'a pas perdu. Mais c'est vrai que cet accident, il frôle carrément la mort. Hein. Il en sera fortement ébranlé. Bon, demeuré plusieurs semaines, même quelques mois à l'hôpital, avec une vague de sympathie immense. Lui-même en est surpris. Hein?
Oui,
même le premier ministre de l'époque qui lui écrit. Là.
Oui, le premier ministre lui écrit. C'est l'ironie dans tout ça, c'est je vous racontais tantôt que Maurice, à son retour des Jeux de l'Empire, il n'y a pas un journaliste qui est là pour l'accueillir. Il arrive avec une médaille d'or. Et lorsqu'il revient au Canada, à Montréal, à ce moment-là, après son accident, il y a une meute de journalistes qui l'attendent, exactement ce qu'il espérait recevoir de son vivant lorsqu'il était plus jeune. Donc, il y a une ironie là-dedans, puis je comprends pourquoi Maurice était émotif. Il avait atteint un statut quand même assez particulier, et là, ben, il voyait, veut pas, que l'accident avait passé proche d'y coûter la vie.
Oui.
Et bon, j'imagine qu'il se doutait également que sa carrière, même médiatique, n'était plus pour être la même. Donc, très, très, très émotif, Maurice. Ça n'a pas été facile, ces années.
Oui, non, tout à fait. Puis d'autant plus, ben, vous l'avez dit, il y avait Maurice le lutteur, mais déjà, c'était une figure publique. On le voyait un peu partout dans les médias, méchant sympathique auquel certaines compagnies s'associent. C'est le cas, ben, on parlait de sa consommation d'alcool. C'est le cas de la Batte. Hein? On va l'écouter dans une pub de 1985.
Me reconnaissez-vous? Non, c'est pas grave. En autant que vous connaissez ma bière, la Batte des gens. Savez-vous, ben du monde aime parce qu'elle a du goût. D'un autre côté, ben du monde l'aime parce qu'elle se prend bien. En tout cas, moi, je parcours la province. Ben du monde l'aime, la Batte légère. Ça se comprend? C'est une la Batte! Pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ça.
Ah oui!
Cette fameuse ligne-là, besoin d'un dictionnaire pour comprendre ça.
On s'en souvient. Hein?
Ben, on s'en souvient. Puis Maurice, à ce moment-là, est invité dans toutes sortes d'émissions. Il fait même Samedi de rire avec Yvon Deschamps et chante en fait une colombe de Céline Dion. Et Céline Dion imite Mad Dog Vachon. C'est sur YouTube, là, c'est un moment d'anthologie.
Oui, parce qu'il y a Mad Dog le lutteur, hein, puis il y a Maurice Vachon. Vous l'avez connu? Il était comment Maurice Vachon, l'homme derrière le lutteur?
Ah, c'était un monsieur tellement sympathique, tellement généreux, toujours souriant, toujours là. Moi, je lui ai parlé les premières fois au téléphone et il votait pour le Temple de la renommée de la lutte au Québec que j'avais fondé. Et je lui ai envoyé un bulletin de vote. Et lorsqu'il retournait le bulletin de vote, la première fois qu'il l'a fait, moi, je lui avais envoyé une enveloppe préaffranchie pour pas qu'il y ait de coûts de son côté. Et lui, bon, c'est... il a mis ça de côté, il a pris une autre enveloppe et il a ajouté plein de photos signées de sa part, en plus de son bulletin de vote. Et les personnes à qui j'ai parlé plus tard pour la rédaction du livre avaient tous le même bilan. C'était quelqu'un qui était là pour eux et qui était très, très, très généreux et toujours, toujours là.
Mais je pense que le public l'a senti, la vague d'amour. Hein?
Oui.
C'est ça aussi. C'est le personnage, le lutteur assez exceptionnel, mais surtout le bonhomme sympathique. Ah. Parlant de bonhomme sympathique, on va se laisser en musique là aussi parce qu'il y avait le sens d'humour, Maurice Vachon. Hein? On va écouter, tiens, le rap à Mad Dog. Mon invité, je rappelle, Pat Laprade, il est historien de la lutte au Québec, animateur de lutte à TVA Sport. Et puis, il a co-écrit cet ouvrage qui a pour titre Mad Dog Vachon avec Bertrand Hébert. C'était en 2015. Biographie donc de Maurice Mad Dog Vachon. Merci beaucoup pour votre visite. Très apprécié.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. On se laisse là-dessus. Bonne soirée. À une prochaine. Au revoir.
Je m'appelle Mad Dog. Vous connaissez. J'ai pas besoin de présenter. Je suis bien content de vous rencontrer pour la dernière fois dans votre quartier. Il y a pas de ça, c'est qu'il m'aime pas faire. Ce qui débarrasse la populaire. Quand ça marche pas, moi je fais dans le tas. Ça prend pas un dictionnaire pour comprendre ça.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.